Que le nom du Seigneur soit béni. Dans le livre des Juges, chapitre 15, nous avons l'histoire d'un homme qui va être lié par ses propres frères. C'est vrai que le ministère de Gédéon n'était pas apprécié de tout le monde. De Samson n'était pas apprécié de tout le monde. Et voilà que les Philistins ont fait un compromis avec les Hébreux. Ça vous montre un petit peu la pagaille qu'il y avait en Israël à cette époque-là, où c'est écrit à la fin, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pour ne pas avoir d'histoire, ses frères ont lié Samson avec des cordes neuves pour le remettre aux Philistins. Vous vous rendez compte l'envie qu'ils avaient de voir la gloire de Dieu se manifester. Ils avaient fait une pseudo-paix avec l'ennemi, et ça les arrangeait très bien. Et voilà que Dieu a suscité Samson. C'est sûr que la façon dont Dieu s'est pris avec cet homme pour bousculer les choses, ce n'était pas bien compris par tout le monde. Mais dans Juges chapitre 15, regardez, au verset 12. Mais quand même, quand on comprend ce que ça veut dire au niveau spirituel, ça fait vraiment pitié, croyez-moi. Ils lui dirent, verset 12, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas. » Ils lui répondirent, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et ils le firent sortir de la caverne. Lorsqu'il arriva à l'équi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Voilà la victoire. L'Esprit de l'Éternel le saisit, les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, deux monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. C'est quelque chose. Si on ne croyait pas que toute l'écriture est inspirée, qu'on aurait du mal à le croire. Mais je vous assure que ça s'est vraiment passé avec une arme qui n'était pas une arme. Si vous aviez demandé à l'âne, est-ce que ta mâchoire un jour servira d'épée pour tuer les ennemis d'Israël? Je ne sais pas ce que l'âne aurait répondu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a quelques textes dans la Bible où nous voyons que Dieu a remporté des victoires avec des armes qui n'en étaient pas. Mais ces victoires ont été remportées parce que cet homme a été baptisé dans le Saint-Esprit. Et c'est ce que je voudrais que nous comprenions ce matin. Nous allons faire encore une lecture dans le prophète Zacharie. Zorobabel a besoin d'une parole de Dieu. Est-ce que ça peut vous arriver d'avoir besoin d'une parole de Dieu? Oui. Zorobabel a besoin d'une parole de Dieu. Dieu va utiliser le sacrificateur Zacharie pour lui donner une vision pour la façon dont Dieu veut que cet homme soit, eh bien, fortifié. Cet homme était soucieux de la construction, du temple, etc. Peut-être il pensait à prendre de nouveaux architectes, j'en sais rien, ça c'est moi qui spécule. Mais une chose est certaine, il avait besoin d'une parole de Dieu. Ce matin, l'Église a besoin d'une parole de Dieu. Vous êtes d'accord? L'Église a besoin d'une parole. Par exemple, l'auditoire. Un jour, je ferai une exhortation sur l'auditoire. Pourquoi? Dans quel état d'esprit sommes-nous? Est-ce que vous avez besoin d'être en contact avec une dénomination? Est-ce que vous avez besoin d'être en contact avec un homme de Dieu? Ou est-ce que la prédication doit vous amener à connaître Jésus-Christ davantage? Quand on est dans un moment comme celui-ci, notre préoccupation doit être « je veux connaître davantage le Seigneur Jésus-Christ ». Est-ce que c'est votre préoccupation? C'est ça. Ce n'est pas le sermon qui est important en soi, ce n'est pas la dénomination dans laquelle nous nous trouvons qui est archi-importante. Ce qui est important, c'est que ce contact me permette de mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Zorobabel, cet homme qui avait été choisi par Dieu pour la construction, il avait besoin d'une parole. Et regardez ce qui s'est passé. Zacharie chapitre 4, verset 1er. « L'ange qui me parlait revint. Il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu ? » Je répondis, « Je regarde, et voici, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, il posera la pierre principale au milieu des glaçations. Grâce, grâce pour elle. Amen. On peut garder ce texte si vous le souhaitez. Nous allons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Dans Luc au chapitre 10, nous avons cette fameuse histoire d'une femme qui est assise au pied du Seigneur. Nous croyons connaître cette histoire au niveau spirituel d'une très bonne façon. Je crois que nous avons besoin encore d'en apprendre dessus. Luc chapitre 10, verset 38. Luc chapitre 10, verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. » Amen. Vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, dans la parole, le Seigneur dit « Prenez garde ». C'est écrit, c'est donc sérieux. Ça nous enseigne qu'il faut faire attention. Que lorsque nous lisons certaines choses, que lorsque certaines choses se produisent, lorsque nous sommes amenés à voir, par le biais des infos, certaines choses qui se passent dans le monde, nous sommes conscients qu'il y a des dangers, des pièges, des difficultés. Et toutes ces choses, conjuguées les unes aux autres, peuvent nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Toutes ces choses peuvent perturber les chrétiens. Certains abandonnent la foi, c'est un des signes de la fin des temps. L'iniquité qui grandit fait que beaucoup de chrétiens se refroidissent. Et la piété qu'ils n'ont n'est que de façade. La tiédeur s'installe dans les églises de la fin des temps, c'est écrit. Tout ce que je vous dis, c'est le résultat de ce qui est enseigné dans les prophéties. Il y a l'apostasie qui s'introduit dans les églises, c'est-à-dire l'abandon de la foi. On n'abandonne pas les églises, on n'abandonne pas le culte, on abandonne la foi. C'est pas pareil. L'apostasie, Jésus n'a pas dit « quand le Fils de l'homme viendra, est-ce que les églises se videront ?» Non. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Et le modernisme, ça plaît aux gens. Voyons, modernise l'Église. Ça, peut-être que le monde sera content de voir que l'Église, elle s'adapte aux choses du monde, etc. La tradition, c'est un véritable problème. C'est un obstacle. Et bien d'autres choses encore. Quand on fait les choses d'une manière routinière, et si on ne prend pas garde, on risque de tomber dans ces pièges que je viens de citer. Jésus a dit aussi, par exemple, en ce qui concerne les dons spirituels, mais pour beaucoup d'autres choses encore, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et l'ignorance a fait beaucoup de dégâts. Si vous écoutez les études de M. Ollet, vous allez voir combien l'ignorance a fait beaucoup de dégâts, empêche même d'avoir la vision, etc., des choses spirituelles. Et lorsque nous sommes malmenés par toutes ces choses que je viens de citer, qui font partie des signes de la fin des temps, eh bien l'Église risque de s'endormir ou de faire l'œuvre de Dieu à sa façon. Car c'est là le problème aujourd'hui, nous voulons de plus en plus ce qu'on appelle, j'aime pas ce mot mais je l'utilise parce qu'on l'emploie souvent, de leaders qualifiés, ça on l'entend de plus en plus, de gens prépondérants, qui ont fait de hautes études, voilà comment l'Église pourra répondre aux besoins de ce monde en perdition. Dieu n'est pas contre que les gens soient intelligents et instruits. Mais ce n'est pas avec l'instruction et l'intelligence que l'œuvre de Dieu se fera, croyez-moi. Je vais essayer de vous l'expliquer dans les semaines à venir. Dans Juges au chapitre 15, nous avons lu l'histoire d'un homme que le peuple de Dieu a lié. C'est un truc de fou. C'est le peuple de Dieu qui a dit à Samson, écoute, ce que tu fais, ça ne va pas. La façon dont tu t'y prends, c'est vrai que quand on ne comprend pas que ces choses venaient de Dieu, c'est sûr que ça dérangeait. Mais ils ont préféré faire la paix avec les ennemis que de comprendre le plan de Dieu. Et ils l'ont lié avec des cordes neuves pour l'empêcher de continuer à faire ses exactions quelque part. Parce que c'était pas quand même... vous lirez le contexte, c'est vrai que c'était pas marrant. Mais vous avez remarqué cet homme qui avait été choisi par Dieu, comme l'Église qui a été choisie par Dieu, doit avoir une seule ressource, c'est être rempli du Saint-Esprit. Samson a été revêtu du Saint-Esprit et il a, malgré le fait qu'on essayait de le lier, il a été délivré de ses liens, car lorsque le Saint-Esprit agit, nous sommes délivrés de nos liens. Nous avons entendu ce matin une sœur qui nous disait que dans sa prière très fervente, qu'elle avait comme les mains attachées, hein, eh bien ma sœur, avec le baptême du Saint-Esprit, vous aurez la liberté entièrement. Et vous le savez, je vous connais suffisamment. Oui, les cordes qui étaient incapables, bien sûr, vous, je ne sais pas si vous savez, des grosses cordes, c'est quelque chose. Et mettez 3 ou 4 brins de laine autour des poignets, essayez déjà de les arracher. 3 ou 4 brins de laine, essayez. Mais là, nous avons une première histoire où nous sommes convaincus que les chrétiens qui sont liés, que les églises qui sont liées, c'est-à-dire empêchées, ne voyez pas là la puissance des ténèbres, mais empêchées tout simplement d'avancer, de faire l'œuvre de Dieu à cause des compromis, à cause de la mondanité, tout ça, ça lie les gens. Et l'œuvre de Dieu ne peut pas se faire. Ou alors on l'a fait avec notre intelligence, on l'a fait avec notre tradition, en pensant que nous sommes capables, intellectuellement, aujourd'hui, avec la technique, avec la formation, avec l'intelligence et la théologie, et toutes ces choses, il est faux. Mais elles ne doivent être qu'un support et non pas le moteur elle-même. Alors que doit faire l'Église aujourd'hui? Nous sommes l'Église, nous sommes encore l'Église de Pentecôte. Est-ce que c'est l'Église que Dieu a besoin de Pentecôte? C'est un sujet à... Est-ce que vous vous considérez comme l'Église de Pentecôte? Est-ce que vous êtes pentecôtiste? Qu'est-ce que ça veut dire être pentecôtiste? Non mais c'est des questions que je soulève comme ça. Il n'y a pas du tout de malice. Je pose une question. Qu'est-ce que nous comprenons de la Pentecôte? Qu'est-ce que c'est pour vous l'Église de Pentecôte? Qu'est-ce que devrait être le mouvement de Pentecôte? Est-ce que nous voulons ressembler de plus en plus à cette Église primitive qui a été un instrument béni? Est-ce que nous croyons que l'Église, par exemple, doit travailler pour que les pécheurs se convertissent? Est-ce que l'Église doit travailler pour que les chrétiens soient édifiés? Où devons-nous renvoyer la foule? Vous savez, quand cette foule s'est rassemblée pendant un moment auprès de Jésus, et que le soir étant venu, ils étaient tous affamés, il y avait 5000 hommes, sans les femmes et les enfants, donc il y avait peut-être une foule de 20 000 personnes, et il y en a un qui s'est approché de Jésus, et qui lui a dit, mais écoute Seigneur, t'as vu l'heure qu'il est? Eh bien, renvoie-les. Il y en a un autre qui a dit, mais... Et de toute façon, on ne peut pas les nourrir, ça, c'est pas possible. Il faudrait telle somme d'argent pour arriver à les nourrir, on ne l'a pas. Et puis Jésus va lancer son commandement, donnez-leur vous-même à manger. Et je suis sûr qu'ils ont tous eu le frisson, tous eu peur. Hein. Il disait cela pour les éprouver. Pourquoi Jésus a-t-il dit quelque chose d'insurmontable, quelque chose pour les effrayer, quelque chose pour les décourager, quelque chose pour les ennuyer? Quand vous comprendrez que toutes les paroles de Dieu sont intelligentes, vous n'aurez plus peur de vous approcher de lui. Donc le Seigneur Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et je crois que cette parole, il pourrait nous la dire lui-même s'il était présent dans ce lieu, donnez-leur vous-même à manger aux Toulousains, aux gens qui sont autour de vous, aux gens que je mettrai sur votre chemin, donnez-leur vous-même à manger. Vous croyez que c'est la politique qui va sauver les gens? Vous croyez qu'au mois de mai ça ira mieux parce qu'on aura un nouveau président? Je pense que les chrétiens éclairés sont convaincus que ce n'est pas la République, la démocratie ou telle façon de diriger un pays qui amène la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, elle vient par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque les chrétiens, même s'ils ont été liés comme Samson parce que ça commençait à faire, eh bien, lorsqu'un homme est dans la volonté de Dieu, là, c'est écrit d'ailleurs, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. On ne peut pas lier la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui choisit de s'appliquer aux choses de Dieu ne peut pas être lié. Il doit être délivré et amener la bénédiction sur les autres avec ce qu'il a dans ses mains. Voyez, alors il y a deux choses à bien comprendre. Pour que l'œuvre de Dieu se fasse, il faut faire les choses comme elles se présentent. Voyez là, Samson, il avait une mâchoire d'âne. Le jour de la multiplication des mains, c'est même pas les apôtres qui avaient quoi que ce soit. Mais il y avait un petit garçon qui était là avec un petit repas. Et avec ce repas, le Seigneur a pu faire son œuvre. D'un côté, il faut faire ce que l'on peut faire avec sa main. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. On peut pas tout faire. Ne vous épuisez pas. Ce n'est pas normal qu'un chrétien soit épuisé. C'est pas normal. On peut être fatigué. Si vous êtes épuisé à cause du service pour Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Le service avec Dieu doit être un plaisir, un honneur, une joie. Et c'est quelque chose dont on reparlera, j'y reviendrai par rapport à ce repos, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Oui, nous sommes dans un monde difficile, mais nous pouvons travailler. Le jour vient où personne ne pourra travailler. Les chrétiens qui ne seront pas prêts à l'enlèvement de l'Église, qui vont rester là sur la terre, dans les pleurs et les grincements de dents, quand ils vont voir la colère de Dieu qui va se déverser sur la terre, car tout ce que nous voyons aujourd'hui ne sont que les prémices de la colère. Moi je trouve que c'est déjà pas mal. Vous trouvez pas? Moi je trouve que c'est déjà sévère. Mais ce n'est pas la colère de Dieu. Tant qu'il y a la grâce de Dieu, tant que l'Église est sur la terre, tant que le Saint-Esprit est sur la terre, il ne peut pas y avoir la colère divine. Il y a les prémices de la colère. Ce sont des choses qui sont très bien expliquées si vous avez lu les Épîtres. Donc nous devons continuer à travailler. Ou alors nous devons baisser les bras, tomber dans la tradition évangélique, pentecôtiste. Elle y est au milieu de nous, ne nous abusons pas, ne nous trompons pas nous-mêmes, la tradition est dans les églises, on fait les choses peut-être parfois d'une manière traditionnelle, routinière, et ça fait que nous sommes un petit peu liés, et nous avons besoin tout à nouveau de la vie du Saint-Esprit pour être délivrés et amener la bénédiction du Seigneur. Il y a une Pentecôte, c'est pas forcément le mouvement de Pentecôte qui détient la puissance du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, le feu de Dieu, il aurait dû tomber normalement sur le temple de Jérusalem. C'était la maison de Dieu. Vous me suivez? Normalement, la maison de Dieu, c'était le temple de Jérusalem. Oui? Bon. Donc, si on est logique, la Pentecôte aurait dû tomber sur le temple. Dieu s'est trompé. Non? Bien sûr que non. La Pentecôte est tombée dans une chambre haute et non pas sur le temple, parce que le temple de Jérusalem avait toute sa tradition, était tombée dans l'aveuglement. Le feu est tombé là où des hommes et des femmes cherchaient à plaire à Dieu. Ils ont obéi. Jésus avait dit, voilà, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que, eh bien, après l'ascension de Jésus-Christ, ils sont allés à Jérusalem et ils ont été dans cette chambre haute, parce que dans cette chambre haute, il n'y avait que des hommes et des femmes, 120 environ, qui avaient soif et faim d'obéir au Seigneur. Et il s'est passé que Dieu savait où le feu devrait tomber, sur des hommes et des femmes qui avaient soif, des hommes et des femmes qui avaient faim du Seigneur. Est-ce que la Pentecôte peut tomber dans une église protestante qui est réveillée, qui se réveille? Bien sûr, vous comprenez? Le problème, il n'est pas dans la dénomination. Quelle ânerie de penser que, parce que nous serions du mouvement de Pentecôte, nous serions les meilleurs. Je l'ai entendu. Je pense que c'est un péché de dire ça. C'est un péché. Le Saint-Esprit est tombé là où les hommes et les femmes cherchaient la présence de Dieu. Dieu avait dit quelque chose et ils ont obéi. Et ces signes qui se sont manifestés après la Pentecôte n'ont pas changé. Ne doivent pas changer. Jésus veut qu'il y ait la manifestation des signes, la guérison des malades. Est-ce que les gens sont malades? Est-ce qu'il y a des malades dans les hôpitaux? Ou est-ce que les hôpitaux sont vides? Je ne sais pas. Est-ce que vous croyez qu'il y a des malades? Est-ce que Dieu veut les guérir? Ou est-ce que Dieu commence à croiser les bras en disant « Non, ça ne m'intéresse plus de les bénir. » Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et qu'il veut les bénir? Il y a des malades dans nos églises. Est-ce que Dieu veut les guérir? Eh bien sûr. Il y a une Pentecôte, elle existe, il y a des verts pâturages, il y a des eaux paisibles, on en a parlé il y a 15 jours, il y a des fleuves d'eau vive. Et le baptême du Saint-Esprit est accompagné de la réalisation de ces signes. Voici les signes, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, c'est-à-dire ceux qui auront obéi. Vous savez, vous connaissez les signes? Il y a le baptême du Saint-Esprit, les malades, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que quelqu'un le croit que Dieu veut encore guérir? Hein? Dieu ne bénira pas là où il y a la tradition, là où on est lié par la tradition, là où on ne veut pas se remettre en question, là où on a peur d'être dérangé. C'est vrai que ça peut déranger d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus vous qui commanderez votre vie. Peut-être le Seigneur va vous dire... Tiens, j'aimerais que tu chantes à la chorale. Est-ce que c'est possible?
Je dis ça parce que j'ai eu mal au cœur en voyant que deux ténors ou deux basses, j'en sais rien.
Mais vous comprenez, je veux dire, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il ne va plus pouvoir faire sa propre volonté. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est vrai qu'il y a une véritable remise en question. Est-ce que je veux vraiment être conduit par le Seigneur? Parce que il est certain que si le Saint-Esprit prend le contrôle de l'Église, il y aura énormément de bénédictions, mais il y aura dans chacun de nos cœurs des remises en question. Vous en êtes conscient? La religion officielle, la tradition, c'est nous qui dirigeons. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui dirige. Le Seigneur, on l'a vu hier, ajoutait à l'Église chaque jour ce qui était sauvé. C'était le Seigneur, parce que les gens étaient baptisés dans le Saint-Esprit, les gens étaient baptisés en Christ, comme on l'a vu. Ils prenaient le baptême parce qu'ils étaient convaincus de péché. C'est le Seigneur qui ajoutait. C'est l'œuvre de Dieu. Nous allons être très étonnés si nous acceptons de faire en sorte que le Saint-Esprit dirige l'Église. C'est le Saint-Esprit qui doit le faire, ce n'est pas le talent. Vous savez, aujourd'hui, je le dis, ce n'est pas du tout pour critiquer, parce que Dieu m'a souvent repris, et vous avez certainement remarqué que j'ai arrêté de critiquer certaines choses. Mais on voit de plus en plus qu'on nous pousse à donner le meilleur. Bien sûr qu'on donne le meilleur quand on est au Seigneur, mais ce n'est pas avec le meilleur que l'œuvre de Dieu va se faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vais donner le meilleur de moi-même au Seigneur. Oui, d'accord. Mais ce n'est pas ça. Ce que Dieu veut, c'est que ma vie lui appartienne. Dans le monde, il y a plein de gens qui donnent le meilleur pour leur organisation, pour leur boîte, pour leur entreprise. Dieu, il ne veut pas le meilleur. Dieu, il veut que nous lui donnions vraiment notre vie. L'Esprit de Dieu, il agit avec notre esprit. Et ça, c'est une autre affaire qu'on abordera plus loin. Mais c'est vrai que, faites attention les jeunes, parce que vous voyez, il y a des séminaires. Là, par exemple, Raymond, il fait un séminaire à Rehoboth avec Monsieur Galifot pour l'évangélisation. Ça, c'est cohérent, ça tient debout, c'est important. Mais ce n'est pas de rechercher des talents. Je me rappelle, j'avais été à un séminaire, je vous le dis parce que ça avait fait des histoires. J'avais été à un séminaire et il y avait un homme de Dieu qui disait, voilà, il faut des hommes dans la politique, il faut des chrétiens dans les entreprises, il faut des chrétiens dans le spectacle, il faut des chrétiens dans le sport, etc., etc. Et tout le monde applaudissait, tout le monde applaudissait. Et moi, pas moi. Et puis un jeune qui est venu me trouver. Il me dit, Monsieur Gou, j'ai prêché après, et il y a un jeune qui est venu me trouver, ah, Monsieur Gou, j'ai compris quelle était la volonté de Dieu. Je veux être un sportif de haut niveau, je passerai à la télé, et je témoignerai. J'ai dit, mais sur le coup comme ça, du suite après, là, oui, je le sais, ça y est, je vais être un sportif de haut niveau. J'ai dit, c'est bien, mais ça serait bien peut-être que vous puissiez d'abord prier pour savoir ce que Dieu en pense. Ah non, moi la prière, il me dit, non, moi c'est pas mon truc. Ah bon? Je dis, au moins, alors, lisez la parole de Dieu, au moins que vous soyez conduits. Ah, moi, la Bible, j'aime pas trop la lire, la Bible. Ah, j'ai dit, écoutez, il faudra faire du sport tant que vous voulez, mais convertissez-vous d'abord. Et voyez, on aiguille les gens. Et c'est des pièges, mes frères et sœurs. Si Dieu veut qu'un sportif de haut niveau témoigne, bien sûr, tant mieux. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, ne partons pas là-dedans, dans des espèces de méthodes, à chercher les meilleurs talents, l'organisation, la modernisation, les spectacles, l'animation, etc. Toutes ces choses ne peuvent pas remplacer le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Zacharie, le texte que nous avons lu, a été utilisé par Dieu pour montrer à un homme d'État, qu'il ne devait pas s'appuyer pour faire avancer les choses sur des hommes. Il fallait qu'il se passe quelque chose et Dieu va lui donner cette vision. Il ne comprend pas qu'est-ce que c'est ce chandelier, ces lampes, ce vase, ces conduits, ces deux oliviers, un à droite, un à gauche. Et à trois reprises, il pose la question, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et quand on parle du baptême du Saint-Esprit, peut-être plusieurs vous disent, mais qu'est-ce que c'est? Où on va aller? Comment ça va être conduit? Ça sera bien. Si c'est par le Saint-Esprit, l'Église, elle sera bien. Et Dieu est en train de dire à Déborah Zacharie que ces lampes qui représentent après tout chacune de nos vies, Jésus n'a-t-il pas dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées? Vous êtes la lumière du monde, oui ou non? Est-ce que nous sommes des lampes? Oui. Alors cette lampe, en vérité, elle nous parle à nous aussi. Mais cette lampe qui a ce chandelier avec ses lampes sont alimentées par des tuyaux, donc qui sont reliés à un vase plein d'huile, débordant d'huile, et ce vase est alimenté par deux oliviers qui, bien sûr, eux, remplissent le vase. Et il est en train d'expliquer, voilà comment l'œuvre de Dieu doit se faire. L'œuvre de Dieu, elle ne doit pas se faire avec, je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'y pensais ce matin en me préparant, avec des super architectes. Tant mieux s'il y a les compétences. Tant mieux s'il y a les talents. Tant mieux s'il y a l'intelligence. Tant mieux s'il y a la cohérence. Tant mieux s'il y a, des particularités intellectuelles. Tant mieux. Mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit, ça servira à rien. Et Zacharie est en train de recevoir de la part de Dieu ce que nous avons besoin tout à nouveau de recevoir, c'est qu'il y a le Saint-Esprit, il y a la parole de Dieu. Pour moi, ces deux arbres, moi j'ai lu plein de trucs là-dessus, mais je crois franchement que ces deux arbres représentent la parole de Dieu, la parole de Dieu, et l'autre, le Saint-Esprit. Et que nous avons besoin de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, parce qu'on peut lire, la Bible pour la lire. On peut lire, ça fait rien. Vous savez, la lettre, elle tue. C'est écrit. Là, pour la lire, il y a déjà dit, moi je lis la Bible, mais ça ne me fait rien. Ben oui, parce qu'il n'y a pas cette action du Saint-Esprit, il y a cette espèce de paresse, je ne sais pas, il y a plein de facteurs qui font que il n'y a pas cette vie. La parole, elle est esprit et vie. La parole, elle est vivante. Elle doit produire cette vie. Et tout ça, cette huile de la parole et cette huile du Saint-Esprit doit venir dans ce vase qu'est l'Église, que nous sommes, et alimenter chacune de nos lampes. N'importe quelle lampe peut faire l'affaire. N'importe quel tuyau fait l'affaire. N'importe quelle personne fera l'affaire, à condition que l'huile coule. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons disponibles. Alors, il y a peut-être des choses qui font obstacle dans les tuyaux. Il y a peut-être quelque chose qui... dans les lampes. Seigneur, peut-être il y a un obstacle. Eh bien, demandez à Dieu. Il va vous aider. Il y a un problème dans votre vie. Il va vous éclairer. Vous avez un problème de rancune. Mais le Seigneur va vous le montrer dans ce moment de prière. Et vous allez pardonner. On s'est tous fait piéger par un domaine, par la rancune, une fois par la jalousie. Je ne sais rien. Vous avez mis moi non, par la jalousie. Mais c'est pas la jalousie. Ça a été autre chose. Oui ou non? On a tous commis, hélas, des erreurs, des péchés, des manquements, tout ça. Bon, on le sait, mais on n'est pas là pour regarder à soi-même. On est là pour regarder au Seigneur. Ce qu'il a à nous dire, Seigneur, oui, tu vois, en ce moment, j'ai un peu d'amertume contre mon patron. Il m'a renvoyé, il m'a mal parlé. Ben, Seigneur, je le pardonne. Et voilà, et on nettoie les tuyaux, et l'huile, elle peut recouler de nouveau. Il n'y a rien de pire que de savoir que Dieu est un Dieu d'abondance et que les tuyaux sont bouchés. Seigneur, je veux être ce tuyau par lequel tu vas pouvoir déverser cette vie de l'Esprit. Dieu est toujours d'accord pour bénir les pécheurs. Même si les pécheurs s'endurcissent, même si les pécheurs blasphèment de plus en plus. On a parlé jeudi après-midi de Manassé, ce roi païen, hébreu, qui a fait pire que les païens. On ne peut pas faire pire. Il aurait voulu faire pire, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Vous lirez dans 2 Chroniques 33, c'est pas possible de faire plus mal que lui. Plus méchant, plus mauvais, plus diabolique, plus pervers. C'est pas possible. Et Dieu l'a arrêté, Dieu lui a parlé, il n'a pas fait attention, bien sûr. Dieu a trouvé les moyens. Dieu a les moyens pour nous arrêter. Et dans sa prison, il s'est humilié et Dieu l'a béni. Profondément béni. Énormément béni. Est-ce que dans la loi, si Dieu a fait grâce comme il a fait grâce, est-ce que du temps de la grâce, Dieu ne peut pas faire grâce aux chrétiens qui ne vont pas bien, mais aux pécheurs? Et pour cela, il faut une église qui soit baptisé dans le Saint-Esprit. Ne pensez pas que l'Église va grandir sans l'onction du Saint-Esprit. Il y aurait une Église de 3000 personnes. Pour qu'il y ait la 3001e personne, il faut qu'elle soit convaincue de péché par le Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? Rien ne peut se faire sans la puissance du Saint-Esprit. Alors nous avons cette responsabilité chacun de dire non, je ne veux pas tomber dans la tradition. Non, je ne veux pas me faire piéger par la routine. Non, je ne veux pas que ce soit moi qui conduise ma vie. Je veux que ce soit... le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts, nous sommes prêts, à nous remettre tous en question et dire, Seigneur, je veux quand même que ma vie soit purifiée. Je veux que ma vie soit consacrée. En parlant de Samson, moi j'ai toujours été marqué, parce que Dieu m'avait interpellé à un moment donné, je ne comprenais pas pourquoi Dieu avait permis qu'on lui crève les yeux. Vous savez, quand une fois qu'on l'a lié, dès qu'on lui a coupé les cheveux, l'ennemi a pu lui crever les yeux. Ils n'auraient pas pu avant, je peux vous le dire. Et le Seigneur m'a montré ce jour-là, parce que les cheveux symbolisaient la consécration, lorsqu'il n'y a plus de consécration, l'ennemi, il nous aveugle. Et c'est un vrai sujet que la consécration, mais ça doit être considéré comme un honneur d'offrir sa vie. C'est un honneur que de s'approcher de Dieu. Est-ce qu'elle a bien fait, Marie, ce jour où elle a reçu les 12 apôtres plus Jésus? Peut-être il y avait les femmes de certains apôtres, j'en sais rien. Il y avait beaucoup de monde. Est-ce qu'elle a bien fait, Marie, de s'asseoir aux pieds de Jésus? Est-ce que ce n'était pas un honneur de s'asseoir au pied du Seigneur? alors qu'elle a été critiquée par sa propre sœur, et peut-être il y en avait d'autres qui lui disaient, écoute, elle fait rien, franchement, tu te rends compte, avec le monde qui a mangé, elle fait rien. Il n'est pas dit qu'elle a rien fait. C'est pas écrit non plus. Mais à un moment donné, il y avait beaucoup de travail. Et cette femme, elle éprouvait le besoin de se mettre au pied du Seigneur. Et il y a là, dans cette attitude de Marie, la chose la plus importante, parce que nous changeons quand nous sommes au pied du Seigneur. Nous ne changeons pas parce que nous servons Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, ils abandonnent Dieu. Il y a des gens, il y a combien de pasteurs ont abandonné Dieu et pourtant ils ont servi Dieu. C'est pas parce qu'on sert Dieu qu'on change. On change dans sa présence. La Bible dit, on va le lire dans 2 Corinthiens, on change en étant à ses pieds. Alors, voilà, chapitre 3, verset 18. Regardez ce verset, il est d'une richesse extraordinaire. Comment sommes-nous changés? 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous, vous y êtes? Nous tous ont le visage découvert, reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Comment? Par l'Esprit du Seigneur. Donc c'est bien la preuve que nous sommes transformés dans la présence de Jésus. Quand nous sommes avec lui, c'est pour ça que j'ai introduit le culte en disant, nous devons comprendre que dans un culte, ce qu'il faut, c'est que nous découvrions davantage le Seigneur Jésus. Alors c'est vrai que n'importe quel tuyau suffit, n'importe quelle mèche suffit, n'importe quelle lampe suffit, à condition que le Saint-Esprit vienne. Mais la Pentecôte, aujourd'hui, ce ne doit pas être un mouvement. La Pentecôte, ça doit être un lieu où le Saint-Esprit dirige, où le Saint-Esprit se manifeste. L'Église du Seigneur, ce n'est pas un centre de spectacle, ce n'est pas un centre social, ce n'est pas un centre de conférence, de kermesse. L'Église de Jésus-Christ, c'est un endroit où les gens sont délivrés. Amen. Jésus-Christ délivre, alors l'Église de Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit, doit délivrer les gens. Personne n'est pas d'accord? Le Seigneur Jésus guérit les corps, l'Église du Seigneur Jésus doit guérir les corps. C'est écrit, guérissez les malades. Est-ce que c'est écrit? Et je crois que ne nous leurrons pas. Ce n'est pas une question de nombre, merci Seigneur, mais qu'on soit 4, qu'on soit 40, qu'on soit 400 ou qu'on soit 4000 dans une église, ça n'a aucune incidence. Ce qui est important, c'est que les chrétiens aient soif de la présence du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus console, l'église doit porter la consolation. Est-ce que vous êtes des consolateurs de néant? Vous rappelez ce que Job a dit à ses amis, vous êtes des consolateurs de néant. Et pourtant, c'était bien ce qu'il disait, mais ce n'était pas du tout à propos. Quand on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on dit des bêtises, on fait plus de mal que de bien. On veut aider quelqu'un, on ne va pas l'aider. C'est pas vrai? Voilà. Les 120 voulaient quelque chose de plus. Marie voulait quelque chose de plus. Samson, malgré ses hauts et ses bas, il a compris que c'était seulement le Saint-Esprit qui pourrait l'amener à remporter des victoires. Quelqu'un a dit, je l'ai noté cette semaine dans mes notes, quelqu'un a dit, les hommes se détournent des églises parce que les églises se sont détournées de Dieu. Et j'ai trouvé ça très bien. Enfin, très bien. Très bien dit. Les hommes se détournent des églises parce que les églises se sont détournées de Dieu. Et le monde s'en va droit dans le mur, droit dans la perdition, droit dans la colère. Le monde est malade. L'église, parfois, elle est malade. Et s'il n'y a personne pour se lever, qui le Seigneur pourra-t-il envoyer? Quelle église va-t-elle se lever? Je répète, quelle que soit la dénomination. Jésus a donné le mot d'ordre, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est à nous de dire, voilà, bon, j'ai qu'une mâchoire d'âne, je vais m'en servir pour combattre le bon combat, mais j'ai besoin de plus, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et je termine avec cette notion de Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a choisi la meilleure part, cette part qui ne lui sera pas ôtée. Elle a vraiment compris, cette femme, ce que c'est que de recevoir. Et lorsque Jésus parle des fleuves d'eau vive, qui jailliraient du sein de ceux qui croiraient, il parlait de ceux qui allaient recevoir l'Esprit. Alors il y a 4 points, je termine très vite, vous pouvez les noter si vous le voulez. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise au pied du Seigneur. Voilà, ça c'est l'exemple type. Elle est dans la communion avec Dieu. Une femme me disait dernièrement, ah moi j'ai pas le temps de prier, moi je prie en passant l'aspirateur, moi je prie en faisant la vaisselle, mais c'est bien. Est-ce que c'est bien de prier en passant l'aspirateur? Mais il vaut mieux chanter et prier, je veux dire, que râler et bouder. Ça c'est évident. Mais je ne crois pas que la véritable communion avec le Seigneur, quoique Dieu peut nous interpeller n'importe où, mais je crois quand même Franchement, c'est un peu de se moquer. Imaginez-vous que quand je viens vous faire une visite, justement, vous restiez avec votre aspirateur. Mais monsieur Gau, c'est bon. Allez, discutez, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et vous continuez. Bon, principe, quand je vais chez les gens, et ils arrêtent l'aspirateur, on dit, alors si vous le faites avec un homme, si vous le faites avec un chrétien, à combien plus forte raison on a besoin de se retrouver seul dans la présence du Seigneur. Elle est assise. Ça indique cette communion. C'est le moyen le plus sûr et le plus rapide de grandir dans la vie. Nous sommes transformés en contemplant le visage du Seigneur. Et c'est ça, s'approcher de Dieu, l'adorer, le bénir, demeurer en lui. La vraie clé, c'est ça. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Jésus compare le chrétien à un sarment. Un sarment, il faut qu'il soit coupé pour être greffé sur le cep. Béni soit Dieu lorsqu'on est greffé. Il faut pas, on ne peut pas être dans le monde et dans l'église. Ou on est greffé sur le monde, ou on est greffé sur le cep. C'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Ou notre vie reçoit les choses de Dieu, ou nous recevons les choses du monde. Et je m'adresse à ceux qui ne s'assoient jamais dans la présence du Seigneur, à ceux qui ne prennent jamais un peu de temps pour s'asseoir au pied du Seigneur. Répondez. La question, elle est sérieuse, elle est solennelle. Où êtes-vous greffé? Êtes-vous greffé sur la vie de Jésus-Christ, sur la vie du Saint-Esprit, ou êtes-vous, ou trouvez-vous votre nourriture dans les choses du monde? Je reviens sur ce que j'ai dit l'autre jour. Des jeunes qui me disaient qu'ils passaient 5 heures par jour sur Internet. Et après, bien sûr, ils ont pas envie de se tenir devant Dieu. Ils ont leur âme, qu'on le veuille ou non, leur âme a été remplie de choses du monde. Ils sont greffés, soudés sur les choses de la terre. Et celui qui se rend ami du monde, il va se rendre ennemi de Dieu. Comment je vais être rempli du Saint-Esprit si en même temps je soupire au Saint-Esprit, mais qu'en même temps je sois ami du monde? Il va y avoir une frustration pas possible. Donc, qu'elle soit assise au pied du Seigneur, deuxièmement, indique son humilité. Là aussi, un des meilleurs moyens de grandir avec Dieu, c'est d'être humble. Vous le savez que Dieu fait grâce aux humbles et qu'il résiste aux orgueilleux. Et l'orgueil, ça commence à dire, mais peut-être dire, ah ben moi j'ai pas le temps, monsieur Gau c'est bien joli, il me demande de m'asseoir dans sa présence, moi j'ai pas le temps. Eh bien c'est de l'orgueil. Vous pouvez le tourner comme vous voudrez, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça c'est une chose. Mais vous ne pourrez pas dire un jour au Seigneur, écoute Seigneur, j'avais pas le temps. Vous pourrez le dire ça? Dieu nous demande de nous tenir dans sa présence. Nous avons tous un peu de temps pour nous tenir dans sa présence. Bien sûr que moi, je vais avoir des heures parce que c'est ma vocation, mais vous aurez une petite demi-heure, à vous aussi, pour vous tenir dans la présence de Dieu. Ne vous autorisez pas à trouver des excuses, à dire que vous n'avez pas le temps. Ça se passera mal quand vous passerez devant le Seigneur. Donc, l'humilité, ça c'est important. C'est un des grands facteurs de grandir dans la grâce de Dieu. Elle est assise au pied du Seigneur, ça indique le repos. Elle n'est pas agitée par le service comme sa sœur qui fait beaucoup de choses. C'est bien de faire beaucoup de choses, mais il y a plus important que faire beaucoup de choses, parce qu'au bout d'un moment, si on ne s'assoit pas dans la présence du Seigneur, on va faire beaucoup et beaucoup de choses, mais beaucoup de chrétiens ne savent même plus si c'est Dieu qui le leur demande. Il y a des gens qui m'ont dit, voilà, je fais ça dans l'église, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais je ne sais pas pourquoi je le fais, je suis épuisé. C'est pour ça que rien ne remplacera ce moment d'écoute où on va être dans le repos, car je le répète, la vie avec Dieu c'est un repos. Prenez mon joug sur vous et vous recevrez le repos. Recevez mes instructions et vous trouverez le repos, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Une personne agitée, énervée, ne va pas pouvoir servir Dieu. C'est dans le calme et la confiance, c'est dans le repos et la tranquillité que sera notre force. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, moi je ne crois pas qu'elle puisse être agitée, énervée, critiquée, etc. Non, elle est dans le repos, elle est dans le repos. Marie, elle est assise. Elle a besoin d'une révélation du Seigneur. Ils ne sont pas en train de parler des potins du coin. Jésus est en train de lui révéler qui va mourir, parce que nous la voyons quelques jours après, en train de répandre ce vase d'albâtre à ses pieds, là aussi elle se fait critiquer, mais une chose est sûre, elle est en train de préparer le corps de Jésus pour sa sépulture alors qu'il est encore vivant. Et cette histoire, elle parfume l'église entière depuis 2000 ans, parce qu'elle avait reçu une révélation du Seigneur. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit, faisons ce que nous pouvons, ce que tu trouves à faire, fais-le. Tu n'as qu'un petit truc, une mâchoire d'âne, c'est pas grand-chose. Mais Seigneur, le peu que j'ai, je le mets entre tes mains. Mais après, j'ai besoin de m'asseoir, de m'attendre à toi. Je l'ai répété, je l'ai dit l'autre jour, le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Voyez, elle est assise, elle est dans le repos. Vous êtes assis,
Moi, je tiens mes muscles pour vous voir. Vous, vous êtes assis, votre corps se repose. Marie, elle est assise, elle est dans le repos. Et dernièrement, elle entend la parole du Seigneur. Quand vous êtes assis dans l'humilité, dans cette attitude de repos, comment ne pourriez-vous pas entendre une parole du Seigneur? Vous allez vous mettre à lire l'histoire des juges. Tiens, oh, un verset va vous bouleverser. Au bout d'un moment, dans le repos, dans l'humilité, dans cette attitude d'écoute, eh bien, Dieu vous donnera une parole. Elle est en train de recevoir. C'est pour ça qu'elle a choisi la meilleure part. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous voulons avancer dans la vie de l'esprit? Je sais que certains n'ont pas répondu. Moi aussi, quand on me pose une question, je ne réponds pas. Je ne réponds pas à haute voix, forcément. Je sais que vous répondez dans votre cœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je vous repose la question. Je ne veux pas que vous me répondiez à haute voix. Mais je veux que vous vous répondiez à vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous cherchions à avoir soif de Dieu davantage? Seigneur, je veux me mettre dans le repos. Un chrétien qui est agité, je le dis, il ne fait rien. Il fatigue les autres. Un chrétien qui est dans le repos, il fait du bien aux autres. Mes frères et sœurs, si quelqu'un a soif, si vous avez soif, approchez-vous de Jésus et buvez à l'entrée. Et les liens tomberont. Peut-être que vous ne pouvez pas servir Dieu. Peut-être que vous êtes lié par la paresse. Je ne vais pas recommencer. Mais est-ce que vous ne croyez pas que dans la présence de Dieu, les liens peuvent tomber? Est-ce que vous le croyez vraiment? Mais c'est facile à comprendre. C'est pour ça que j'ai dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte du fruit. Fermons les yeux un instant. Nous sommes tous sous le regard de Dieu. Vous venez pour la première fois, les adolescents qui venaient aux instructions sur le baptême, soyez interpellés aussi. Vous aussi, vous pouvez déjà commencer à servir Dieu dans votre maison. Mes frères et sœurs, le monde ne peut rien faire. Ne critiquez pas les politiques, ça ne sert à rien. Ils sont dans le monde. Ne perdez pas de temps à critiquer tel ministre, vous rendez compte ce qu'il a dit. Ne rentrons pas dans ce combat, il est stérile. Il y a un autre combat. Un bon combat. Et c'est l'Église, elle seule qui peut le mener parce que c'est elle seule qui peut avoir l'onction du Saint-Esprit. Et je voudrais vous encourager, comme Marie a fait, à nous tenir dans sa présence, à l'écoute. Et le Seigneur vous parlera, vous libérera. Les cordes tomberont, qu'elles soient neuves ou qu'elles soient anciennes, elles tomberont. Quand le Saint-Esprit agit, les cordes tombent. Et nous savons qu'il y a des réserves dans le Saint-Esprit, dans la parole qui alimenteront notre vie. Et l'œuvre se fera. Seigneur Jésus, tu nous as une fois de plus rassemblés dans ta maison. Nous sommes venus te louer, vraiment, t'adorer car tu es digne d'adoration. Mais nous ne pouvons pas, Seigneur, nous contenter que de t'adorer. Nous voulons nous rapprocher de toi. Seigneur Jésus, nous voulons te connaître et être transformés à ton image. Nous croyons que si tu nous entretiens sur ce sujet, c'est parce que tu veux baptiser l'Église du Saint-Esprit. Nous ne pourrions pas croire autrement que de partager ces choses serait pour une autre raison. Seigneur, tu veux bénir cette ville, ce pays. Trouve des chambres hautes dans cette église, dans nos maisons, où tu manifesteras ce feu, car c'est toi, par ta puissance, qui le fais. Tu l'as dit, que c'est le Saint-Esprit qui agit comme il veut, où il veut, dans celui qu'il veut. Alors Seigneur, que nos tuyaux, que nos lampes soient débouchées, afin que ta flamme brille. Aide-nous Seigneur, on a besoin tous de ton aide, moi le premier Seigneur, aide-nous. Baptise-nous de ta présence. Seigneur, que l'Église puisse amener la guérison, la délivrance, la résurrection, que l'Église amène la vie là où tu veux qu'elle soit. Nous te rendons grâce, Seigneur, et te prions de conduire le culte de cet après-midi, les prochaines réunions, notre emploi du temps. Aide-nous, Seigneur. Sache-nous interpeller chaque fois que c'est nécessaire. Que ta volonté soit faite. Et que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Amen.